À Brétigny, Jean n'avait plus de contact quotidien avec l'ingénieur en chef. Cet heureux temps ne pouvait pas durer. Il faut en revenir à la routine, avec l'aggravation que, pendant quelques jours, le pilote a repris l'habitude d'un semblant d'indépendance. Et la complication que le ciel bas, invraisemblable au mois de mai, ne permet que des vols très rares et aucun essai d'altitude. Jean voulait poursuivre les essais à Istres, pour de multiples raisons, dont quelques-unes n'étaient que des prétextes. « On ne va pas à Istres en mai, Villamont s'y opposait, ou du moins en remettait la décision de jour en jour. Soutenu par le commandant Rolla, son chef direct, le pilote vint à Paris, au siège, en référé au grand patron. Le grand patron donna raison à Jean. Ce n'était pas la première fois. On rapportait de lui ce mot « Fichez la paix à Benoiston, il obtient des résultats ». Cet arbitrage fut l'occasion de la scène la plus violente qui eut opposé l'ingénieur en chef au pilote. Au cours de la querelle, Villamont, en dépit de son caractère froid, s'emporta jusqu'à dire « On vous connaît, toujours là, hein ?» à essayer de résoudre la quadrature du cercle. Un héros, hein ? Vous savez ce qu'ils font, les héros comme vous ? Ils retardent le progrès. Un reproche inattendu. Ni Jean, ni Rolla ne comprirent tout d'abord. Puis, il leur revint que, depuis des mois, Villamont travaillait à la mise au point d'un avion cible, nouveau modèle, censément pour la DCA, radioguidé à terre. Cet appareil, plutôt projectile que cible, devait en principe servir pendant les grandes manœuvres. Mais Rolla se demanda si, dans l'esprit de l'ingénieur, il n'était pas question, avant de remettre le robot à l'armée, de l'utiliser à des fins d'expérience. Le mot de Villamont eût pris alors un sens terriblement actuel. Le pilote d'essai ralentit le progrès parce qu'une machine dénuée d'âme accomplirait son travail mieux que lui. Cela ressemblait à une condamnation à mort sans phrase du pilote d'essai. Rolla reconnut son erreur. Villamont n'avait rien d'un adjudant sadique. C'était tout bonnement un polytechnicien. Le commandant en fut atterré. Jean l'invita avec quelques copains le soir même à l'attaque du courrier de Lyon, les bobonnes laissées à la maison. Il n'y avait là, outre Rolla et Jean, que des vieux de la vieille, des gars comme Maléo ou Basile Bosch, qui avaient fait toute la guerre et connu la belle époque des loopings, assis sur la queue et du frottage des ailes, ce dernier exploit consistant à effacer d'un coup d'aile les cercles à la craie inscrits sur l'aile du coéquipier. Tour de gamin, tour de fou, école pourtant des Guillaumet et des Mermoz, des Saint-Ex et des Rosanoff. On but à la gloire des ailes et à l'irremplaçable audace de l'homme. À la fin du repas, on se cassa gaiement des assiettes sur la tête, on démonta le lustre, on colla au plafond le plateau à fromage, on conspua Villamont absent et on se jura que la période héroïque n'était pas morte. De bonne foi dans l'instant. On rentra sur le coup de 4 heures du matin et quelques-uns regagnèrent directement le terrain, parmi lesquels Jean lui-même, qui avait son départ à préparer. À 10 heures, il reçut un appel de Françoise. Elle lui demandait s'il pouvait se rendre libre au début de l'après-midi et venir avec elle à l'hôtel Drouot, qui annonçait une vente prometteuse. Il faillit refuser, alléguant son travail. À la réflexion, il s'étonna qu'elle n'eût pas prévu ce refus. Le temps était loin où elle n'osait pas sortir avec lui. Puis il pensa qu'ils allaient être séparés pendant 2 ou 3 semaines. Il lui devait ce plaisir. D'autre part, l'inhabituelle beuverie de la nuit l'avait claqué, et il ne tenait pas à voir Villamont ce jour-là. Elle dit qu'elle passerait le prendre chez lui, dans sa petite voiture. Mais lorsqu'il descendit, au coup de klaxon, ayant par exception déjeuné en famille, il vit avec stupeur que Michel Galard accompagnait sa femme. À coup sûr, elle ne prévoyait pas la présence de Michel lorsqu'elle avait téléphoné. Pourtant, de fureur, une fois encore, Jean fut tenté de se décommander et de se faire conduire au terrain. Enfin, il voulut savoir comment le mari avait pris la chose. La curiosité l'emporta sur la colère. Il baisa la main de Françoise, serra celle de Michel et s'assit derrière le couple. Michel conduisait, Jean ne vit de lui durant le parcours qu'une nuque lourde. À demi tournée vers Jean, mondaine, Françoise parlait de la vente qui n'aurait lieu en fait que le lendemain matin. Je n'assiste jamais aux ventes. Je préfère choisir la veille et m'en remettre du reste priseur, surtout comme c'est le cas quand le commissaire priseur est un de mes amis. Une visite comme celle-là me permet de savoir où je vais et de ne pas risquer, dans le feu de la surenchère, de dépasser le prix que je me suis fixé. Michel ne disait rien, gêné, moins par ce silence que par le bavardage inhabituel de la jeune femme, Jean se reprochait sa faiblesse. Il ne s'inquiétait guère des maris de ses conquêtes, dans la pensée sans doute qu'il fallait être idiot pour se marier et qu'on devait, la faute commise, se tenir prêt à en assumer toutes les conséquences. Si le mari se révèle incapable de satisfaire sa femme, ce n'est tout de même pas la faute de l'amant. Mais Françoise le déconcertait sous cet aspect nouveau où elle se découvrait, la petite bourgeoise, prudente et maligne, très apaisée entre le mari et l'autre. L'image qu'évoquaient les mots ne coïncidait pas avec la Françoise que Jean, maintenant, croyait connaître, superficiellement, il est vrai. Qu'elle soit ce qu'elle veut, qu'est-ce que cela me fait ? À coup sûr, cela ne lui faisait pas rien. Prudente, maligne, menteuse, elle ne l'intéressait plus. Mais il ne parviendrait pas à l'ignorer. Eût épouvanté Jean de même la métamorphose un matin du SC-101, son poisson, en un vieux zinc hors d'usage. La traversée de Paris fut laborieuse. Il était 4h-10 lorsque Michel arrêta la voiture dans la ruelle étroite qui longe l'hôtel des Ventes. Tout de suite, il proposa un verre. Françoise déclina l'offre. Elle avait hâte, dit-elle, d'effectuer sa tournée d'inspection. Il parut à Jean qu'elle n'était pas fâchée de le laisser en tête-à-tête avec Michel. Il ne comprenait pas pourquoi. Michel commanda un scotch. Il buvait plus sec qu'autrefois. Jean, au contraire, en avait perdu l'habitude. Il demanda un Perrier. Le pilote d'essai n'est plus l'aviateur d'antan qui partageait sa vie entre des vols et des beuveries à terre. Le choix s'était posé au lendemain de la guerre, de poursuivre une existence de joyeux garçon et faire son deuil de tout le reste, ou d'accepter la discipline que requérait des hommes qui la servaient une technique toute puissante. Le choix de Michel n'avait pas été le sien. La conscience que tout à coup il en eut incita Jean à passer à l'offensive. Il ne pouvait soutenir plus longtemps un échange de banalités, moins encore donner l'impression de craindre un Michel Gaillard. « Tu as dû être surpris, dit-il, que je vous accompagne à Paris. » Françoise m'a raconté. « Vous vous êtes rencontrés chez ta mère ? J'ai cru comprendre que vous vous étiez revus plusieurs fois. » Michel tournait lentement le verre dans sa main, obsédé, eût-on dit, par la danse du glaçon. Il attendait une réponse qui ne vint pas. Un pauvre type, pensait Jean, moins le désir de savoir que le besoin d'être rassuré. « J'ai regretté, poursuivait Michel, que tu n'aies pas accepté de dîner un soir à la maison. Je sais bien que ce n'est pas facile, tu as ton job, j'ai le mien, et ma femme n'est pas plus libre que nous. Pourtant, il me semble qu'on aurait pu s'arranger. » « De toute façon, dit Jean, ce n'est pas le moment d'y penser. Je pars pour Istres demain. » « Pour Istres ?» L'intonation était bizarre. Jean eut l'impression que Michel se préparait à prononcer des paroles irréparables, et il en fut soulagé. Une bonne bagarre serait préférable à ce jeu sordide. Mais l'impression ne dura pas. « Il faudra que je le dise à ma femme que tu vas à Istres. » Elle s'absente elle-même pour quelques jours. Des amis qui l'invitent à Aix. En somme, vous ne serez pas très loin l'un de l'autre. Elle ferme son magasin comme ça ? Jean, stupéfait, ne savait que dire. Elle va là-bas pour son commerce aussi. Les environs de Paris sont ratissés au petit fer, paraît-il. Elle espère trouver dans les fermes des vieux meubles, je ne sais quoi. Tu vas pouvoir jouer au célibataire ? Jean grimaçait, voulant sourire. Oh, dit Michel, c'est pas que ça m'enchante. Mais elle est comme ça. Lorsqu'elle a décidé une chose, qu'est-ce que tu veux ? Tu la connais un peu maintenant, qu'est-ce que tu en penses, hein ? Je n'ai pas d'opinion, dit Jean brusquement. La vieille camaraderie se ranimait, non pas une fraternité d'armes, oubliée, mais cette autre, plus prenante, qui unira toujours les hommes contre la femme. Au fond, c'est une garce, et son mari si bête, si veule qu'il soit devenu, un brave type ? Il reprochait à Françoise ce voyage soudain, prétexte, il n'en doutait pas, combiné sans m'en avertir, pour me placer devant le fait accompli. Et si je lui disais que je ne veux pas d'elle, qu'elle aille se faire fiche ? Il avait envie de laisser tomber Michel, Françoise, tout ça. Il ne voulait rien avoir à faire avec ça. Voilà trop longtemps que ça dure, ma parole, près de 2 mois. Il était un homme libre, d'abord. Michel vida son verre et dit « Je dois aller au ministère. Tu reviens avec nous ce soir ?»« Je ne crois pas. J'ai affaire, moi aussi. Mais nous ne partons pas sans saluer ta femme ?»« Pas le temps, dit Michel. Vas-y, toi. Tu t'y retrouveras ? Dis-lui que je reviendrai la prendre à 6 heures. » Jean s'y retrouva, non sans peine. Cette bâtisse était immense. Il découvrit Françoise, enfin, dans une des grandes salles du rez-de-chaussée, après avoir parcouru les étages. Penchée au-dessus d'une vitrine pleine de médailles, elle notait des numéros dans un petit carnet de poche. Il vint près d'elle et pendant 1 minute se tut. Enfin, elle referma le carnet et le mit dans son sac. « Je suis navrée, dit-elle. Mais je n'avais aucun moyen de l'empêcher de venir. Il passera te prendre à 6 heures. Merci. Elle le regarda, elle souriait. Soudain, ses yeux s'attristèrent. Qu'as-tu ? Qu'y a-t-il, chérie ? Il supporta l'examen. Je ne suis pas sûr, dit-il posément, que Michel soit un mauvais type. Mais non, il ne l'est pas. Les yeux de Françoise étaient d'une candeur surprenante. Il est bête ? Brutal, jaloux, persuadé une fois pour toutes d'être un héros. Pour rien au monde, il ne quitterait la bonne place qu'il a. Je ne lui connais pas de curiosité, ni intellectuelle, ni physique, mais ce n'est pas un mauvais type. Simplement, je ne l'aime pas. S'il était vraiment jaloux, te laisserait-il aussi libre ? Ce sont nos conventions. Il veut pouvoir dire que je suis sa femme, mais j'entends faire ce qui me plaît. Je peux très bien vivre sans lui, il ne l'ignore pas. Mais il l'accepte. J'accepte bien sa présence. Tu crois que c'est amusant de l'entendre me raconter ses éternelles histoires, me reprocher ma façon de parler, de manger, de m'asseoir?
Et de coucher avec lui,
dit Jean. Françoise recula d'un pas. Qu'est-ce que tu as dit? Soudain, les yeux brillants, le visage empourpré, Jean reconnut que sa remarque n'était pas très intelligente, pas très gentille non plus. Elle ne valait pourtant pas une telle réaction. Il en fut suffoqué. « Mais comment me vois-tu ? » disait Françoise. « Qui crois-tu que je suis ?» Il comprit tout à coup.
« Tu ne prétends pas ?»« Il y a 18 mois, dit Françoise, que je n'ai fait l'amour avec lui, fait semblant tout au moins. Il n'était question de rien d'autre. Depuis le jour où je l'ai menacé de me jeter par la fenêtre s'il approchait de moi, il ne m'a plus touchée. « Mais enfin, » dit Jean. Elle ne le quittait pas du regard. Elle semblait lire sa pensée.
« Il a pris une maîtresse depuis, je suppose, je n'en sais rien, cela m'indiffère, qu'il se débrouille. » Elle observait le visage de Jean, attentivement, comme pour chercher à voir s'il la croyait, ou plutôt pour essayer de comprendre comment il avait pu la croire capable d'appartenir à deux hommes à la fois. Il pensait. Les sacrées femmes, lorsqu'elles se mettent à être vaches, elles le sont plus qu'aucun de nous. Mais il admettait ce genre de vacherie, qui n'est pas exempt d'une certaine grandeur. Il détourna les yeux.
Il m'a dit que des amis t'invitaient à Aix.
Le changement de Françoise à nouveau l'étonna. Cessant de l'observer, son regard perdit sa tension inquiétante. Elle n'était plus qu'une très jeune fille, presque une gosse, à la veille des vacances.
« Tu sais que c'est vrai? Voilà des mois que dans toutes leurs lettres ils m'invitent. Il faudra que je te quitte un jour ou deux pour aller les voir.
Et ton magasin ?»«
Oh zut, dit-elle, je n'en pouvais plus. J'ai absolument besoin d'un peu de repos, je le prends. Tu sais que je n'ai pas eu de vacances l'an dernier ?»
Elle se calma.
« Mais je dis ça, j'ai beaucoup à faire avant de partir. Il va me falloir travailler cette nuit et la nuit prochaine. Un petit tableau que je veux dévernir. J'enlèverai les repeints, je ne sais, mais il y a quelque chose. » Elle accompagnait la remarque sibylline d'un claquement de langue, d'un claquement de doigts. « Je le ferai aussi passer à la radio. » Elle lança un coup de poing pour rire à Jean stupéfait. Elle chantonna « Vive les vacances !» Il l'embrassa. Il n'avait plus envie de lui interdire de venir. Il pensait que ce n'eût pas été drôle s'ils avaient dû rester séparés 15 jours. Il ne lui reprochait plus son habileté à endormir les soupçons de Michel. Ils se promenèrent encore 1 heure dans la grande salle, les 3/4 du temps déserte. Un jeune homme très pressé en fit 1 fois le tour, un vieux monsieur montra son nez, il n'y eut pas d'autre couple que le leur. Françoise, sans cesse, quittait Jean pour s'inquiéter d'un meuble peu banal, dont il se demandait à quoi cela pouvait servir et qui presque toujours portait un nom étrange. Une table d'accoucher, un rafraîchissoir. Lorsqu'il dit qu'il s'en allait, Françoise se rapprocha de lui. Il rentrerait à Melun par le train. Elle voulut l'accompagner jusqu'à l'arrêt d'autobus. Dans la foule, il ne passait pas inaperçu. Jean, le premier, remarqua les regards des gens. « On nous admire, » lui dit-il à l'oreille. Elle sourit, d'un air contraint. Le mot était ridicule dans la bouche de cet homme. « C'est vrai, » dit-elle, « on nous regarde. » Il fut heureux qu'elle ne l'eût pas remarqué elle-même. Ce détail lui parut une preuve d'amour. Quand nous sommes ensemble, elle ne voit que moi. Il se reprit, car la réciproque était vraie. Quand nous sommes ensemble, nous ne voyons que nous. Il regretta, pour la première fois, qu'ils ne fussent pas toujours ensemble. Il souffrit, pour la première fois, de cet aspect sordide, parce que fragmentaire, de leur rapport.